Alors ce matin, je vous invite à ouvrir la Bible pour lire quelques mots seulement. On va pas lire un long texte, on va lire un demi-verset. Donc c'est pas très long, mais on va s'attacher à une expression que Paul utilise pour se présenter en fait. Et je vous invite à lire Philémon. C'est une petite épître avant l'épître aux Hébreux. Et on va lire juste le début du premier verset. Il n'y a qu'un chapitre dans cette lettre de Paul. On lit ici de la part de Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier de Jésus-Christ. Dans la société, quand on veut se présenter, se faire connaître, souvent, on utilise quelque chose, et je pense que peut-être plusieurs d'entre vous possèdent cette chose, ça s'appelle une carte de visite. Hein? Une carte de visite, ça permet à celui qui la reçoit de comprendre qui nous sommes, notre parcours, nos titres. Et finalement, en très peu de mots, dans une carte de visite, on peut avoir un aperçu de quelqu'un, de son parcours, de ses compétences. Alors pour écrire une carte de visite, les mots qu'on choisit sont importants. Ils doivent être simples, clairs, précis. Et ils doivent donner à ceux qui reçoivent la carte un aperçu immédiat de qui nous sommes. Si par exemple nous sommes coach sportif, eh bien la première chose qu'on lira, c'est Gilles Georgel, coach sportif. Et ensuite, peut-être il y aura quelques éléments qui diront mon parcours, où j'ai exercé ce métier, dans quelle discipline je peux être un coach sportif. Je dis cela parce que les présentations que Paul fait dans ses lettres, les premiers versets des lettres, sont un peu comme sa carte de visite. Et le choix des mots que Paul utilise, c'est quelque chose de réfléchi, de calculé, pour que ceux à qui il écrit sachent qui il est dans le Seigneur. C'est ce qu'il veut dire. Alors le terme qui revient le plus souvent dans les lettres que Paul écrit, c'est le terme apôtre. Il revient environ 9 fois dans les lettres que Paul écrit dans le Nouveau Testament. Et le deuxième terme, on n'y pense sans doute pas, ce n'est pas le terme serviteur, c'est le terme prisonnier. C'est étonnant. De la part de Paul, comme ici, prisonnier de Jésus-Christ. Si Paul utilise ce terme, c'est qu'il veut faire passer une idée très importante de ce qu'est sa condition, sa vie avec le Christ. Paul utilise 5 fois ce terme dans ses lettres. Dans Éphésiens 3, verset 1, il dit qu'il est le prisonnier de Christ pour les païens. Dans le chapitre 4 de la même lettre, il dit: Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Dans la deuxième lettre à Timothée, Paul dit à Timothée: N'aie pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Et puis dans l'épître à Philémon, il écrit 2 fois qu'il est le prisonnier du Seigneur. Au verset 9, on a lu le verset 1, c'est au nom de l'amour que je préfère t'adresser une requête. Moi, Paul, qui suis un vieillard et de plus maintenant un prisonnier de Jésus-Christ. Alors certes, Paul a vécu de longs moments en prison. Mais je crois qu'il y a quelque chose de plus profond que simplement le fait qu'il est captif dans une prison, dans le terme qu'il utilise. Et on va réfléchir ce matin à cette condition de prisonnier de Jésus-Christ. Une première question que j'aimerais vous poser ce matin, c'est si on devait vous forcer à être le captif de quelqu'un qui aimeriez-vous avoir comme geôlier? Je suis persuadé que si vous deviez choisir entre différentes personnes, aucun de vous ne dirait par exemple « Ah, cet homme-là, il est connu comme étant cruel, violent, dur. C'est lui que je vais prendre, comme étant mon gardien, mon geôlier. » Certainement, on chercherait à avoir le gardien de prison le plus humain, le plus sensible possible, le plus capable de comprendre qui nous sommes, de compatir avec nous. Alors je crois que si Paul utilise d'abord ce terme de prisonnier pour se définir, c'est parce qu'il sait que c'est le terme, au fond, qui définit le mieux notre condition dans ce monde. Et on va le voir, la Bible nous montre que nous sommes soit prisonniers de Jésus, soit prisonniers d'autre chose, d'autres maîtres, d'autres forces, d'autres puissances. On est dans un monde où la revendication la plus forte des hommes, c'est d'être libre. Mais la Bible dit qu'aucun de nous n'est libre vraiment. Quand nous naissons dans ce monde, déjà, nous sommes dans une captivité. Dans le psaume 51, verset 7, c'est le psaume que David a écrit après avoir commis son adultère avec Bathsheba. Il dit à Dieu, « Depuis ma naissance, je suis coupable. Quand ma mère m'a conçu, j'étais déjà marqué par le péché. » Psaume 51, verset 7. C'est comme si David disait, « Oui, j'ai péché gravement devant toi, Seigneur. » Il confesse son adultère et même son meurtre. Mais il dit, « Il ne faut pas s'étonner de ce que je sois capable de commettre de telles choses, car depuis ma naissance, mon cœur est incliné vers le mal et le péché est mon maître. » Il n'y a au fond qu'un seul homme qui a été libre quand il a été créé, c'est Adam. Il n'était pas encore sous la puissance du mal et il était en relation avec Dieu. Mais depuis que le péché est entré dans le monde, aucun homme ne naît libre. Et Jésus, quand il est venu à Nazareth pour prêcher l'Évangile, il a identifié les hommes qui étaient devant lui comme des captifs. Il a utilisé le verset d'Ésaïe où il a dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a consacré par onction pour proclamer aux captifs la délivrance. » Nous sommes tous, finalement, des prisonniers. Soit du péché qui s'est introduit dans l'humanité, soit de Satan, soit de Jésus-Christ. Et je crois que c'est vraiment une illusion complète quand les hommes pensent être libres. Quelque part, ils sont toujours prisonniers, esclaves de ce qui a triomphé d'eux. C'est ce que dit Pierre dans une de ses lettres. Pierre nous met en garde contre les faux prophètes dans l'Église qui promettent la liberté à certains alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui, il dit, dans 2 Pierre 2,19. Alors nous avons certainement un choix à faire et je crois que c'est important qu'on comprenne que devenir chrétien, c'est devenir prisonnier de Jésus. C'est pas faire sa vie comme je l'entends. C'est devenir captif de quelqu'un d'autre que le péché dont nous étions captifs autrefois. Ésaïe, dans le chapitre 26, versets 12 et 13, il s'exprime à Dieu dans un moment de reconnaissance et il dit « Éternel notre Dieu, d'autres seigneurs que toi dominés sur nous. » Mais toi seul, tu nous assures la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Avant l'heure, Ésaïe nous montre le bienfait de la captivité, de Jésus. Certes, nous avons un maître et un seigneur qui a des exigences. Mais il ne nous demande pas de produire nous-mêmes ce qu'il attend de nous. Il nous donne la force. Son but, c'est d'agir en nous pour nous rendre semblables à lui. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Et je trouve extraordinaire de vivre cette captivité. Certes, les exigences de Jésus sont très élevées, mais son objectif, c'est de produire en nous ce qu'il attend de nous. Le Seigneur veut que nous soyons, que nous vivions dans la sainteté, que nous nous séparions des anciennes habitudes de péché qui étaient en nous, mais il sait que ce n'est pas par nos propres moyens que nous y arriverons. C'est dans la relation avec lui, dans la dépendance de lui, dans la captivité, on peut dire, que nous pourrons vivre cette libération. Dans Jean 15, Jésus nous a donné le secret de la vie chrétienne. Par un mot, il faut que vous demeuriez en moi. On pourrait traduire autrement. Il faut que vous soyez captifs. Que vous restiez en prison avec moi, en quelque sorte. Attachés à moi. Et curieusement, plus nous sommes prisonniers de Jésus-Christ, plus nous sommes libres. Libre du péché, libre de nos anciennes passions, libre des influences du monde, on va encore le voir. Paul le dit en Éphésiens 4, verset 1. J'ai déjà cité ce texte, mais on va le lire. Et c'est intéressant ce que Paul dit ici. Je vous encourage, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Paul établit un lien entre le fait d'être prisonnier et le fait de marcher d'une manière digne de Jésus. On ne peut pas marcher d'une manière digne de Jésus si on n'est pas attaché à lui, si on n'est pas prisonnier de lui. Et plus nous sommes proches de lui, plus nous cultivons notre proximité avec le Seigneur, et bien plus nous avons la force de vivre comme il le désire. La conduite sainte que le Seigneur veut nous voir suivre est inséparable de notre dépendance du Seigneur. Hors de la captivité de Jésus, nous ne pouvons pas porter de fruits. Nous sommes prisonniers de notre nature. Et nous sommes soit dans l'obéissance au péché, soit dans l'obéissance à Dieu. Paul le dit dans Romains 6, 16. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez comme prisonnier à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui conduit à la justice. Il y a beaucoup de passages dans la Bible qui sont liés à cette idée d'être prisonnier. Vous vous livrez. Être chrétien, c'est ce que j'expliquais hier à Jimmy, un homme que j'ai rencontré, c'est se livrer. Tu t'appartiens, tu crois être ton maître, maintenant tu te livres à Jésus. Tu lui abandonnes ta vie. Et tu es forcément esclave de celui à qui tu te livres, soit de Jésus, soit du péché qui conduit à la mort, ou soit de Jésus qui conduit à la justice. On va encore réfléchir un peu plus loin à cette notion d'être prisonnier. Qu'est-ce que ça veut dire être prisonnier de Jésus ? On va réfléchir simplement à ce mot « prisonnier ». Si Paul l'a utilisé pour illustrer la relation qu'il a avec Jésus, c'est qu'il a estimé que ça définit bien, ça image bien, ça illustre bien sa relation avec le Seigneur. Un prisonnier, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui vit dans un espace de liberté limité et surveillé. C'est quelqu'un qui vit dans un espace de liberté limité et surveillé. Un prisonnier ne peut pas faire ce qu'il veut. Il n'est pas libre de ses mouvements. Il ne peut pas décider d'aller là ou là comme il l'entend, mais il est soumis à un cadre et à un gardien qui l'oblige à organiser sa vie à l'intérieur même de la prison dans laquelle il se trouve. Alors la Bible nous rappelle que, devenu enfant de Dieu, on ne s'appartient plus, on appartient à Jésus. Paul le dit plusieurs fois, vous avez été rachetés, vous ne vous appartenez plus. Notre corps, notre âme, notre esprit ne nous appartiennent plus. On n'est plus libre d'user de nos membres comme nous le voulons. Il y a des choses que nous faisions dans le passé avec nos mains, nos pieds, nos yeux, que nous ne sommes plus libres de faire aujourd'hui. Parce que nous sommes en prison avec Jésus, en quelque sorte. Mon corps, mes pieds, mes mains, mes yeux, mes membres ne m'appartiennent plus, mais ils lui appartiennent à lui. Autrefois, je pouvais mentir, exagérer, me vanter, être méchant, médire des autres, calomnier, blasphémer Dieu, je le faisais. Mais aujourd'hui, ces choses ne sont plus possibles parce que Christ vit en moi et je vis en lui. Mes paroles, mes actes sont appelés à refléter le caractère, les désirs, les pensées et les valeurs de mon nouveau maître. Alors, je souligne ce fait que, effectivement, devenir chrétien, c'est pas simplement être libre, c'est changer de captivité. Avant, nous étions captifs du péché, et maintenant nous sommes placés sous une nouvelle captivité, celle du Seigneur. Et dans Éphésiens 4, verset 8, c'est intéressant, il est parlé de l'œuvre de Christ et de l'Église, et il est dit ici dans ce verset que Christ a emmené des captifs avec lui quand il est remonté au ciel. C'est intéressant. Il nous a fait prisonniers, en quelque sorte. Depuis que Jésus est ressuscité, nous sommes prisonniers de Jésus et emportés déjà dans le royaume de Dieu. Certes, nous vivons encore ici-bas, mais notre véritable citoyenneté, elle est au ciel. Nous avons été faits prisonniers. Et d'ailleurs, Paul utilise plusieurs fois cette idée. Il dit que nous défilons derrière le char triomphal du Christ. Hein, vous connaissez cette expression dans Corinthiens. Voilà. En fait, nous sommes les trophées de Jésus. Il nous a gagnés, il nous a conquis et nous sommes emmenés avec lui dans le ciel. Notre mission, maintenant, c'est d'être les représentants terrestres du royaume céleste de Jésus. Nous sommes prisonniers de Jésus et nous sommes des ambassadeurs dans ce monde. Nous ne sommes plus des citoyens de ce monde d'une certaine façon, mais nous sommes les représentants du royaume des cieux ici-bas. Alors je crois que c'est essentiel qu'on se représente la vie chrétienne comme une captivité. C'est très important. Je pense que plus nous comprendrons cela, mieux nous le vivrons. Parce que parfois, nous pouvons souffrir de dire « ben je ne peux plus faire ça, je ne peux plus faire ça ». Mais comprenons que si nous sommes captifs du Christ, nous sommes libres d'autres maîtres, d'autres seigneurs. Et la prison dans laquelle nous sommes, c'est la prison de l'esprit, en quelque sorte. Le Saint-Esprit, c'est le gardien de la prison. Paul le dit dans Galates, « Je vous dis, marchez par l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Oui, c'est vrai. Devenu chrétien, je ne peux plus faire ce que je veux. Il y a dans mon être quelque chose qui voudrait aller dans une direction, et puis il y a le Saint-Esprit qui est le gardien de ma vie et qui me dit non, là je mets des limites, tu ne peux pas aller par là. parce que tu n'appartiens plus à ce monde-là, tu m'appartiens. Le but de Jésus, comme je l'ai dit, le but de l'Esprit, c'est de nous configurer à l'image de Jésus. En fait, ici, nous sommes en formation en vue du développement de notre caractère en préparation pour le royaume de Dieu, en quelque sorte, qui va venir. Et la prison dans laquelle nous sommes, c'est un laboratoire où Dieu travaille avec nous et nous transforme de plus en plus. Pour nous préparer à ce royaume dans lequel nous allons vivre l'éternité. Pierre le dit dans son épître, il dit « Pour cette raison, en raison de l'espérance qui est la nôtre, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la qualité morale, à la qualité morale, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, la persévérance, à la persévérance, la piété, l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle, l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laisseront pas inactifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le but que le Saint-Esprit cherche à atteindre dans nos vies. Il nous rend captifs de Jésus pour produire en nous le caractère et l'image de Jésus. Nous sommes emprisonnés dans une école de formation et de préparation en vue du royaume de Dieu. Maintenant, il y a une autre conséquence encore, et la dernière, du fait que nous soyons prisonnier de Jésus. Lorsque Paul a écrit sa lettre à Philémon, en fait, il était effectivement en prison. C'est en prison que Paul a rencontré Onésime, le serviteur de Philémon qui s'était enfui de chez son maître et qui, dans la prison, a rencontré Paul et a rencontré aussi Jésus. Et Paul écrit donc à Philémon pour que Philémon puisse de nouveau recevoir Onésime, non plus comme un serviteur qui s'est enfui, mais comme un frère. Et au verset 10, il lui dit « Je t'adresse cette requête à propos de mon enfant qui est devenu mon fils en prison, Onésime. » Philémon 1, verset 10. Alors ce qui est intéressant, c'est que lorsque Paul se présente dans sa lettre, il ne dit pas de la part de Paul « prisonnier de Rome », mais « prisonnier de Jésus-Christ ».« Prisonnier de Jésus-Christ ». Quelque part, Paul a compris la nouvelle situation dans laquelle il se trouve. Tout ce qui lui arrive n'est pas une contrainte, un accident, un problème. C'est quelque chose qui découle directement de la volonté de Jésus. Paul a appris à accepter tout ce qui lui arrive comme étant la volonté de son maître. Il est prisonnier de Jésus-Christ et non pas prisonnier de Rome. Et c'est intéressant de voir que dans la vie de Paul, les prisons, les chaînes, les entraves qu'il a pu connaître ne l'ont jamais empêché d'être l'apôtre, l'homme qu'il devait être pour Dieu. Parce qu'il savait que sa liberté, elle n'était pas liée à une condition extérieure, mais à sa relation avec Jésus. Paul était libre dans son cœur, dans sa vie, dans son esprit, parce qu'il était prisonnier de Jésus. Et rien de ce qui pouvait contraindre, limiter sa vie, sa liberté, ne le dominait, ne l'affligeait vraiment. Il était libre. On en a un exemple dans Philippiens 1, versets 12 à 14. Paul écrit depuis sa prison. Il dit « Je désire que vous le sachiez, ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, personne n'ignore que c'est pour Christ que je suis en prison. Et la plupart des frères et sœurs, encouragés dans le Seigneur par mes chaînes, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Alors les autorités avaient pensé mettre Paul en prison pour le faire taire, détruire son influence. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Les frères et sœurs n'étaient pas découragés, il est dit, par les chaînes de Paul, mais encouragés. Parce qu'ils voyaient que Paul restait lui-même, continuait son ministère en prison. Et partout l'évangile se répandait. Paul nous apprend que quand on est dans la position de celui qui est prisonnier de Jésus, on est libre de tout le reste. On peut rester soi-même. Personne ne peut nous voler notre identité, ce que nous sommes, à partir du moment où on vit sous la domination de Jésus. Alors peut-être que ce matin, sans doute nous ne sommes pas comme Paul. Aucun de nous n'est en prison et ne doit dire adieu à sa liberté parce qu'il est chrétien. Mais on peut être captif d'autre chose dans la vie. On peut être captif d'une maladie qui nous limite dans notre corps. Captif parce qu'on aimerait bien avoir des capacités que d'autres et que d'autres ont et que nous, on n'a pas. On peut être prisonnier d'un environnement difficile, avoir un chef pénible au travail, un conjoint qui n'est pas au Seigneur. Ce sont toutes des prisons qui voudraient nous enfermer en quelque sorte. Alors Paul nous dit, en fait, ne regarde pas ces choses comme étant des réalités qui doivent t'étouffer. Tu appartiens à Jésus. Et tout ce qui se produit dans ta vie vient de Jésus. Tu es le prisonnier du Christ. Et ces choses qui te pressent, qui sont comme des limites, des entraves, elles doivent te pousser à te rapprocher encore plus de lui, pour que tu sois de plus en plus libre en toi-même. En préparant ce message, j'avais déjà fini de préparer ce message, d'ailleurs j'ai pensé à un autre exemple qui est vraiment touchant dans la Bible, c'est l'histoire de la petite servante, vous vous rappelez, de Naaman, qui était faite prisonnière. Elle aurait pu vraiment gémir, se plaindre, mais elle est restée libre. Elle a pu témoigner de sa foi à celui qui l'avait capturé, Naaman. Et elle a même été, pour lui, l'instrument du salut de Dieu pour cet homme, ce général syrien. Elle était prisonnière de Dieu, de Jésus-Christ. Elle était libre, capable de pouvoir vivre sa vie de foi dans ce nouveau contexte, loin de sa famille, toute seule, en Syrie où elle était prisonnière. Prisonnier de Jésus-Christ, finalement, nous sommes libres de tous les maîtres tyranniques qui pourraient dominer sur nous. Et je crois que c'est là le message que Paul voulait donner en utilisant ce terme. Alors je vais conclure en rappelant les points principaux de ce message ce matin. D'abord, rappelons-nous que l'évangile du Christ est un évangile libérateur. Jésus est venu pour libérer des captifs. Nous ne sommes pas des êtres libres. Nous sommes asservis à nos passions, à nos convoitises, à notre caractère mauvais, et nous avons besoin de changer de maître. Jésus est venu pour nous libérer de nos anciens maîtres et nous placer sous sa captivité à lui. Le deuxième point, c'est que le gardien de prison, de notre nouvelle prison, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit veut nous amener à ressembler à notre maître. C'est son objectif. Nous sommes dans une condition où nous sommes en préparation pour le futur royaume dans lequel nous allons entrer. Et c'est intéressant de lire sous la plume de Paul qu'il dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. On est en captivité, on est prisonnier de Jésus, mais en même temps, on vit une liberté qu'on n'a jamais connue. Et puis le troisième point, c'est que si nous nous considérons comme prisonniers de Jésus, alors nous sommes libres à l'égard de tout ce qui voudrait nous enchaîner, nous entraver dans la vie. Ce qui a donné aux chrétiens la force de traverser les galères qu'ils ont connues tout au long des siècles, eh bien, c'est cette relation avec Jésus. Et c'est extraordinaire. Avec Jésus, nous pouvons traverser les tribunaux, la persécution, la souffrance, sans jamais nous renier, mais en étant capables, comme il le désire, d'être ses témoins. Alors, je ne sais pas comment vous vous définissez, mais rappelons-nous que, en dehors du fait d'être apôtre, qui était le ministère que Paul a reçu, le deuxième titre qu'il évoque, c'est celui de prisonnier, prisonnier de Jésus. Et je crois que c'est un titre qui ne convient pas qu'à Paul, mais qui convient à tous les vrais croyants. Nous sommes prisonniers de Jésus. Voilà, on va encore prier ensemble.